Nous allons accueillir aujourd'hui M. Lalo, qui vient nous parler de l'écriture sainte dans la vie de l'Église. Et c'est tout à fait en adéquation avec la lecture d'aujourd'hui, puisque Jésus dit qu'on scrute les Écritures et que c'est par les Écritures qu'on découvre. Voilà. Et donc, je vais vous laisser vous présenter, parce que je ne sais de vous que la chose suivante, c'est que vous avez fait votre service militaire à 28 ans et demi.
Alors, je vais vous rendre l'appareil parce que tout à l'heure, vous avez fait un léger lapsus lorsque on vous a demandé de faire les annonces. Alors, les annonces, vous les avez bien faites, moi, ce que je peux en juger. Mais vous avez fait un léger lapsus en disant on va avoir quelqu'un qui va nous parler de l'Eucharistie dans la vie de l'Église. Mais voyez, vous êtes vraiment pas trompé. Vous allez voir, vous êtes vraiment pas trompé.
Ah, bah,
vous allez voir qu'il y a un lien qui est un lien très étroit. Donc, vraiment, c'est très très bien. Merci.
Elle était française cette année-là et elle prophétisait.
C'est beaucoup mieux
comme
ça.
En tout cas, merci de votre accueil. Je voudrais tout d'abord vous dire que je suis vraiment très très heureux de me trouver parmi vous et que je remercie Abel. Je crois qu'il n'est pas encore arrivé, mais je l'ai eu ici. Si, il est là, non? Voilà. Donc, je le remercie parce que j'ai eu des contacts avec lui qui étaient des contacts assez intéressants. C'est lui qui a fixé le sujet. Et moi, je me suis exécuté, ou j'ai en tout cas essayé de m'exécuter. Donc, je vais vous parler des Écritures dans la vie de l'Église. Alors, est-ce que je suis légitime pour vous parler de ce sujet? Je l'espère. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que j'ai soutenu, à un âge avancé, comme vous pouvez le voir, le 3 décembre dernier, une thèse de doctorat d'État de théologie à l'Université de Strasbourg, dirigée par l'un de vos anciens, le père Philippe Valin. Et le père Philippe Valin est professeur de théologie systématique dans cette université d'État, et il est également membre de la Commission théologique internationale. Donc, il s'agit d'un travail de théologie un peu massif, puisque vous avez 971 pages, et que vous avez 90 pages de bibliographie, ce qui est complètement inhabituel maintenant dans l'université française. Tout à l'heure, si vous me posez des questions, je pourrais vous expliquer pourquoi ça a pris cette tournure-là, et qu'est-ce qui a présidé à faire un travail qui est un travail doublement inhabituel, par son volume d'une part, mais aussi par le sujet. J'ai en fait essayé de commenter commenter des verbum, et surtout de regarder quelle avait été sa prospérité spéculative, excusez-moi. Non pas sa réception, mais qu'est-ce que cette constitution conciliaire de Vatican II sur l'écriture, qu'est-ce qu'elle a produit en 55 ans? Quel est le mouvement des idées qu'elle a suscité sur 55 ans? La réception ne m'intéressait pas trop, parce que voilà, vous avez eu différentes étapes. Vous avez eu le cinquantenaire de la fin du Concile qui a donné lieu à beaucoup, beaucoup, beaucoup de publications. Et moi, je n'avais pas pour vocation de répéter, peut-être moins bien, ce que d'autres avaient fait. J'ai essayé de m'intéresser à l'histoire des idées. Comment tout ça s'est développé dans la pensée de l'Église pendant 55 ans. Et puis, donc, ce travail a été soutenu à l'Université de Strasbourg, et j'ai eu le plaisir d'avoir comme invité l'un de vos grands anciens également, le père Jean-Robert Armogat, qui est connu parce que je crois qu'il a succédé au père Urfès dans le poste d'aumônier de votre école. Et c'est lui donc qui a chuchoté mon nom dans les oreilles du père Urfès. Alors, je vous dis, donc vous l'avez compris d'ailleurs, que je ne suis pas un théologien professionnel. Et loin de là. Et de façon de formation pluridisciplinaire, j'ai, ce qu'il faut me présenter, j'ai jadis, après diverses licence parce que j'avais beaucoup de mal à choisir une orientation, au grand dam de mes parents d'ailleurs. J'ai obtenu un diplôme à l'école pratique des hautes études, puis un DEA de philosophie, avant de soutenir un doctorat d'histoire sur les débuts juridiques de l'ordre franciscain. J'avais, à l'époque, initialement l'intention de me consacrer à la recherche et de postuler pour l'école française de Rome, mais les circonstances en ont décidé autrement, puisque le hasard des rencontres a fait que j'ai accepté une proposition pour rentrer dans un grand groupe industriel, le groupe PSA Peugeot Citroën, où j'ai occupé successivement des fonctions de conseil social, de directeur des affaires sociales, puis directeur de la formation, et puis je suis après rentré dans une autre société internationale de transport et de logistique où j'étais vice-président, jusqu'au jour où j'ai pris ma retraite, il y a quelques années, et où j'ai pu travailler un petit peu plus, que j'avais souhaité faire depuis très longtemps, c'est ce doctorat de théologie. Alors le temps passe vite, hélas, je me sens très vite aussi une expérience. Je suis donc dans une recherche active, puisque j'ai des fonctions, je suis président d'audience au Conseil de Prud'homme de Paris, je suis également juge à l'officialité provinciale d'Île-de-France qui traite notamment des problèmes de nullité de mariage, et puis je siège dans quelques conseils d'administration. Et puis enfin, je peux être commencé par là, je suis marié et père de deux grands-enfants. Voilà, j'espère que j'ai satisfait à la demande que vous aviez formulée, Florence. Et vous savez tout en ce qui me concerne. Vous m'avez donc demandé de traiter le thème de l'écriture sainte dans la vie de l'Église. Et pour ce faire, je vous propose de suivre le fil rouge proposé par le sixième et dernier chapitre de Dei Verbum, la constitution conciliaire de Vatican II sur la révélation, intitulé précisément « L'écriture sainte dans la vie de l'Église ». Fil rouge qui va me permettre d'émettre quelques considérations relatives aux effets que cette constitution a produits durant ces 55 dernières années. Et en fait, il s'agit tout simplement de voir comment l'Église considère l'écriture et l'importance qu'elle revêt pour elle. Ce qu'elle fait, ce qu'elle en fait et ce qu'elle doit en faire. Et puis enfin, comment l'étudier, comment l'utiliser, comment la pratiquer. C'est donc sans grande originalité que je vais reprendre devant vous ces trois volets. Tout d'abord, comment l'Église considère l'écriture. Je crois que pour situer les choses, il est indispensable de rappeler que ce sixième chapitre de Dei Verbum débute par une affirmation de principe sur la signification de l'écriture pour l'Église. Et d'emblée, nous sommes plongés au cœur même du sujet, puisque, exprimant la vénération profonde de l'Église pour la Sainte Écriture et l'importance qu'elle lui accorde, le Concile la compare, l'écriture, ni plus ni moins, à l'Eucharistie. Jugez-en plutôt. L'Église a toujours vénéré les diverses Écritures, comme elle a toujours fait aussi pour le corps même du Seigneur, elle qui ne cesse pas, surtout dans la Sainte Liturgie, de prendre le pain de vie sur la table de la parole de Dieu et sur celle du corps du Christ pour l'offrir aux fidèles. À bien y réfléchir, les conséquences sont redoutables, puisque cela veut dire qu'il n'existe pas de liturgie eucharistique sans liturgie de la parole. Vous voyez, on y vient. Il s'agit effectivement là d'une position qui est une position très ancienne de l'Église. On peut même sans doute aller plus loin en affirmant que par l'inspiration scripturaire, l'inspiration des Saintes Écritures, c'est ni plus ni moins la totalité de la vérité divine qui se trouve incarnée pneumatologiquement dans l'écriture et partant dans la finitude du moyen humain d'expression qui est un texte constitué par un système de signes sur un support. Dei Verbum renoue donc avec la tradition ancienne en disposant que, je le disais il y a un instant, l'Église a toujours vénéré les divines écritures comme elle l'a toujours fait aussi pour le corps même du Seigneur, sans qu'il y ait pour autant équivalence ou symétrie. Les écritures étant ordonnées à l'Eucharistie, comme le traduit d'ailleurs l'aménagement liturgique du cœur des églises, où ambon d'une part et table eucharistique d'autre part font l'objet de deux dispositions distinctes. Et si vous avez suivi un petit peu l'actualité de ces derniers mois sur la restauration de Notre-Dame de Paris, vous avez peut-être pu entendre que c'était un vrai débat. L'Église, le diocèse, voulant une certaine disposition et les architectes des monuments historiques en souhaitant une autre. Mais les architectes des monuments historiques ne sont pas tous des liturgistes. Autrement dit, avec l'écriture, le chrétien, qu'est-ce qu'il fait ? Le chrétien, il rentre dans un système de signification où les préparations prophétiques et l'Évangile lui permettent d'atteindre le don de Dieu avec la communion spirituelle de ceux qui, dotés d'une vraie vie spirituelle, communient sacramentellement, tout comme ceux qui, toujours dotés d'une authentique vie spirituelle, ne serait-ce que par leur obéissance ou héroïsme de persévérance, comme c'est parfois le cas avec les divorcés remariés, ne communient pas sacramentellement. Notons enfin que le rapport entre ce que l'on appelle la table de la parole et celle de l'Eucharistie est également cité dans d'autres textes conciliaires sur le décret sur la vie des prêtres, Presbyterorum Ordinis du 7 décembre 1965, au terme duquel il est précisément indiqué que les chrétiens doivent se nourrir du Verbe de Dieu aux deux tables de la Bible et de l'Eucharistie. Alors, en croisant ces citations du Concile Vatican II, il ressort que l'expression « pain de vie » s'applique aussi bien à la table de la parole qu'à la table de l'Eucharistie, et que celle de « Verbe de Dieu » concerne pareillement l'Eucharistie et la parole. D'où la vénération des Écritures que le Concile compare à celle de l'Eucharistie, venant comme un écho à un passage célèbre de la 13e homélie d'Origène sur l'Exode, que je ne résiste pas à vous lire. Vous savez, nous dit Origène, vous qui avez coutume d'assister au divin mystère, de quelle manière, après avoir reçu le corps du Seigneur, vous le gardez en toute précaution et vénération, de peur qu'il n'en tombe une parcelle. De peur qu'une part de l'offrande consacrée ne se perde. Vous vous croiriez coupable, et avec raison, si par votre négligence quelque chose s'en perdait, que si, pour conserver son corps, vous prenez tant de précautions, et à juste titre, comment croire qu'il y a un moindre sacrilège à négliger la parole de Dieu qu'à négliger son corps. C'est le Christ Verbe, proclamé dans les Écritures, est reçu grâce à l'Esprit qui se fait chair dans l'Eucharistie, sacrement de la présence du Christ. Notons au passage que si l'Eucharistie est sacrement de la parole, c'est aussi un acte d'évangélisation, comme le montre l'emploi du verbe annoncer, utilisé par saint Paul aussi bien pour la scène du Seigneur dans la première épître aux Corinthiens, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, Donec Veniat, que pour son propre ministère d'annonce de l'Évangile, puisque on lit en Romains 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Dans l'Eucharistie, foi et sacrement restent donc inséparables. Et méditant sur la quatrième demande du Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, saint Augustin souligne qu'outre le pain, nourriture du corps, l'objet d'une telle demande est aussi d'obtenir de ne commettre aucune faute, nous éloignant de cet autre pain que constitue aussi la parole de Dieu. Parole et pain ne font qu'un, puisque toujours, selon saint Augustin, la parole de Dieu qui nous est annoncée tous les jours est aussi un pain. Telle est également la grande idée du chapitre 6 de l'évangile de saint Jean présentant le Christ comme pain de vie, non seulement en tant qu'il est nourriture sacramentelle dans l'Eucharistie, mais aussi en premier lieu comme révélateur de la parole du Père. Là encore, les conséquences sont absolument inouïes, car si le Verbe s'incarne dans les verba, le texte lui-même devient la chair d'une incarnation. Il y a donc une chair du texte dont l'incarnation chrétienne constitue par ailleurs l'accomplissement et qui fait que le texte biblique qui performe une nouvelle fois l'incarnation du Verbe n'est plus seulement un texte, mais bien la chair du référent. L'Écriture et l'Eucharistie donnent l'une et l'autre le Verbe incarné. L'Eucharistie donne son propre corps, sa chair même. La Bible donne la parole, sa parole. L'Écriture fournit la lumière, nourrit la foi en communiquant le Verbe illuminateur. L'Eucharistie donne la vie en nourrissant l'amour par la chair du Verbe vivificateur. Écriture et Eucharistie sont nécessaires au développement de la croissance de la vie chrétienne. L'une ne peut pas aller sans l'autre, comme le montre d'ailleurs fort bien le déroulement de la célébration eucharistique. On ne peut pas communier au corps du Christ sans communier à sa pensée. À ce sujet, il est intéressant de mentionner que dans un article en hommage à Paul Ricoeur, publié en 2011 dans la revue de l'Institut catholique de Paris, qui doit s'appeler Transversalité, le philosophe Emmanuel Falk, lui non plus pas toujours très aisé à comprendre, fait sienne l'idée de bouche manducatrice et récitatrice. De sorte que, dit-il, par ma bouchée de pain et de parole, je mange le corps en même temps que le livre, m'avançant vers les deux tables et m'incorporant à l'une, la parole, en m'incorporant à l'autre, l'Eucharistie. Abordant la façon d'utiliser l'Écriture et mettant l'accent sur le fait que Bible et liturgie sont étroitement et inséparablement liés, la constitution Sacrosanctum Concilium sur la liturgie du 4 septembre 1963 dispose que, dans la célébration de la liturgie, la Sainte Écriture a une importance extrême. C'est d'elle que sont tirés les textes qu'on lit et que l'homélie, oui, que l'homélie explique, ainsi que les psaumes que l'on chante. C'est sous son inspiration et dans son élan que les prières, les oraisons et les hymnes liturgiques ont jailli. Et c'est d'elle que les actions et les symboles, c'est d'elle que les actions et les symboles reçoivent leur signification. A contrario, si les actions et les symboles étaient intrinsèquement dotés de leur propre signification, l'ensemble relèverait d'une sorte de magisme sacramentelle. Que serait la liturgie? Que serait la liturgie sans la Bible? Et inversement, sans la liturgie, la Bible n'apparaîtrait pas comme la parole divine donnée pour la nourriture de la foi. Très concrètement, la liturgie de la parole ouvre la liturgie eucharistique avec comme point de jonction l'homélie. Oui, comme point de jonction l'homélie, comme, si vous voulez, charnière de la parole et du fait, dont l'importance particulière provient de son contexte eucharistique. L'homélie peut être considérée comme un acte in persona Christi capitis. Parce que commentaire de l'écriture, ici et maintenant, aujourd'hui donc, elle est le moment le plus élevé du dialogue entre le Seigneur et son peuple, avant la communion sacramentelle. De plus, elle se situe au-delà, de mon point de vue, du simple enseignement, car à l'instar du Munus Docendi de Jésus, il ne s'agit pas seulement d'éclairer l'intelligence, mais surtout, oui, surtout, de mettre également la volonté en mouvement dans un objectif de conversion. C'est ce à quoi servent les homélies, en fait. Historiquement, il est intéressant de constater que le retour à une pratique eucharistique plus fréquente, telle qu'il est survenu au début du XXe siècle, à partir de 1905, à la suite du décret Sacra Tridentina Synodus de Pie X, fait que ce pape considère qu'il convient d'autoriser et d'encourager la communion quotidienne comme étant la nourriture quotidienne de l'âme. C'est ce que dit le décret. Le pape insistant sur le fait qu'en utilisant le pain qui est la nourriture quotidienne de l'homme, Jésus a voulu marquer son désir que cette alimentation céleste soit également revêtue d'un caractère quotidien. Je crois qu'on peut dire qu'en un sens, le pain de ce jour qu'il a appris à ses disciples, à demander dans le Notre Père, c'est donc son corps. Et dans ces conditions, l'application du décret de Pie X que je viens de dénoncer, se devait être accompagnée et complétée par un retour à la Bible, qu'il a d'ailleurs effectivement entraîné. À son tour, et sans surprise, toute la spiritualité issue du Concile Vatican II présente Jésus comme Verbe incarné, parole devenue chair. Alors, je crois que pour un catholique, se définir chrétien, c'est-à-dire accueillir la parole de Dieu, mais se déclarer simultanément non pratiquant, pose vraiment un problème de cohérence, puisque ce sont précisément l'Écriture et l'Eucharistie, on y revient, les deux tables qui nourrissent pleinement la vie des fidèles du Christ. C'est d'ailleurs cet aspect qui fait l'objet d'un approfondissement par Benoît XVI, lorsque, dans la fameuse encyclique Deus Est Caritas de 2005, il présente la place centrale de la communion eucharistique en parlant de mystique du sacrement, qui se fonde, c'est ça qui est extraordinaire, mystique du sacrement, qui se fonde sur l'abaissement de Dieu vers nous et qui entraîne bien plus haut que ce à quoi n'importe quelle élévation mystique pourrait conduire, étant entendu toujours selon Benoît XVI que la mystique du sacrement a un caractère social, parce que dans la communion sacramentelle, je suis uni au Seigneur comme tous les autres personnes qui vont communier avec moi. Cela signifie, certes, que le lien indissoluble entre l'Écriture et l'Eucharistie s'inscrit dans une dynamique qui va de la table des Écritures à celle du sacrement. Mais cela signifie aussi que la médiation sacramentelle de l'Église, loin d'être circonscrite dans la circularité entre les deux tables, déborde de sa lectio divina et de son activité liturgique et a vocation à s'ouvrir largement vers les autres. Il s'agit là, en quelque sorte, d'une œuvre d'engendrement qu'accomplissent tous ceux qui se laissent nourrir par la parole de Dieu, cette dernière rendant parlante l'existence de ceux qui l'écoutent et la méditent, en les faisant passer de la lectio à l'action. Quelques mots, si vous le voulez bien, sur le caractère normatif de l'écriture comme règle suprême de la foi, puisque le numéro 21, l'un des derniers numéros de Dei Verbum, présente implicitement l'écriture comme norme de validation de la tradition. L'écriture, norme de validation de la tradition, en ce sens que rien qui serait contraire au verbum Dei Scriptum ne pourrait être un authentique verbum Dei Traditum. Dès lors, le critère d'authenticité de la tradition réside bien dans sa conformité avec les Écritures, avec pour juge l'Église tout entière, sujet de la tradition reçue dans l'Esprit-Saint. L'Église ayant l'Écriture comme règle de foi, il faut en conséquence que toute la prédication ecclésiastique, comme la religion chrétienne elle-même, soit nourrie et régie par la Sainte Écriture. Retour, en quelque sorte, à l'antique, à la vénérable pratique des pères de l'Église, dont l'ensemble de la prédication n'est qu'une explication de l'Écriture, par laquelle la première personne de la Trinité elle-même vient au-devant, je cite Dei Verbum, de ses fils et entre en conversation avec eux. Fin de citation. Ainsi, l'Écriture est le point d'appui et la force de l'Église, dont les membres y trouvent la force de leur foi, la nourriture de leur âme, ainsi que la source permanente de leur vie spirituelle. Ajoutons que cette parole est à la fois vivante et efficace. Vivante, dans la mesure où l'Esprit-Saint l'a remise dans la bouche des apôtres, à la naissance de l'Église, avant qu'elle ne fasse son œuvre et se propage de Jérusalem à Rome pour s'étendre ensuite au monde entier. Efficace, car touchant le cœur de l'homme, elle ne s'affaiblit pas dans la mesure où chaque vie sainte constitue à elle seule une herméneutique actualisée de sa puissance. Chaque grande théologie en renouvelant par ailleurs la saveur. Il n'y a pas d'effet de déperdition. Elle ne s'impose jamais du dehors, car en tout homme existe un lieu, souvent ignoré lui-même, de lui-même et des autres d'ailleurs, car en tout homme existe un lieu en qui celle-ci résonne. Enfin, elle ne s'enferme jamais au-dedans, car elle n'est pas une relique à conserver, mais un feu qui vit, qui ne vit que de se propager, une source de lumière en somme. Alors après ces quelques observations sur la façon selon laquelle l'Église considère l'Écriture, j'en viens à présent à la seconde partie de mon exposé, ce que l'Église fait et doit faire de l'Écriture. Ouvrir largement l'accès de la Sainte Écriture aux chrétiens passe nécessairement par les traductions. Et ce d'autant plus que le texte, vous savez, le texte original de l'Ancien Testament a été rédigé soit en hébreu, pour sa plus grande part, soit en araméen, soit en grec. Et que de surcroît, certains de ces livres ayant eu un original en hébreu ne nous sont connus que dans leur version grecque, ce qui est le cas, par exemple, pour les livres de Judith, le livre de Tobie, certains passages du livre d'Esther, du premier livre des Maccabées, du livre du Siracide, ainsi que quelques passages du livre de Baruch et de celui de Daniel, je crois. Rappelons enfin que les catholiques et les orthodoxes ont retenu les dites œuvres connues dans leur version grecque comme authentiques et inspirées, à l'inverse du judaïsme et à sa suite du protestantisme, qui ne prenant en compte que la seule Bible hébraïque, considère ces mêmes livres et ou ces passages comme apocryphes. Si donc des sections ou des versions anciennes de quelques livres du Nouveau Testament ont pu connaître une première rédaction en araméen, langue d'usage de Jésus et des douze apôtres, en pratique, seuls les écrits en langue grecque nous sont parvenus, les communautés s'étant disséminées très tôt et très rapidement à l'extérieur du pays de Jésus, là où la seule langue d'usage, la seule langue usuelle, plus précisément, était le grec. L'émergence d'une version grecque de la Bible montre donc que dans son intégralité, comme dans son intégrité, le message biblique peut tout à la fois se transférer, s'enraciner, se déployer dans un champ sémantique différent de celui dont il est originaire, en s'enrichissant des potentialités d'une autre langue et en développant, comme de surcroît, la compréhension de la révélation. Et là, on a la preuve que la traduction relève de la pneumatologie, puisque c'est le même esprit qui permet de s'introduire dans un autre champ sémantique. Le fait qu'il n'y ait aucune difficulté à entrer dans la traduction met en évidence, comment dirais-je, la fertilisation opérée, raison pour laquelle l'Église n'a jamais hésité à procéder à des traditions du corpus biblique. Ceci est fort important. Récemment, dans la lettre Scripturae Sacrae Affectus publiée il y a un peu plus d'un an, en septembre 2020, à l'occasion du 16e centenaire de la mort de Saint Jérôme, le pape François rappelle l'importance des traductions de la Bible, soulignant, je cite, qu'il est possible d'établir une analogie entre la traduction en tant qu'acte d'hospitalité linguistique et d'autres formes d'accueil. Fin de citation. Ce faisant, François cite et suit Ricoeur, pour qui traduire, c'est pratiquer l'hospitalité langagière, ou mieux encore, le plaisir d'habiter la langue de l'autre est compensé par le plaisir de recevoir chez soi, dans sa propre demeure d'accueil, la parole de l'étranger. Toutes les langues, oui, toutes les langues, par ailleurs créées par Dieu, ont donc capacité à exprimer le mystère du Christ lui-même, Sauveur universel. Cependant, si le sens de la révélation ne se perd pas dans la traduction, chaque traduction demeure une réelle mise à l'épreuve de l'Évangile et de la révélation en général, puisque dans le geste technique de la traduction, la vérité du révélé résiste avant de se déployer, voire de se renforcer dans un autre langage, une langue donnée pouvant renfermer des possibilités dont d'autres sont dépourvues. Par l'événement de la Pentecôte, les apôtres furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer, nous dit le livre des Actes des Apôtres. Dieu ne diffracte donc pas la compréhension dans la famille humaine, mais à l'inverse, il la recompose à l'instar de la présence indivise du ressuscité, qui n'est pas affaiblie dans la distribution de l'Eucharistie, comme le montre la fraction du pain à Emmaüs. Cléophas, comme son compagnon de route, dont nous ignorons le nom d'ailleurs, recevant l'un et l'autre la totalité de cette présence. Aussi, de façon générale, la traduction ne saurait générer une quelconque perte d'information, tout au contraire. À l'opposé, la tradition juive considère que la traduction du texte hébreu massorétique en grec n'a aucune raison d'être, comme l'explique on ne peut mieux un passage du traité intitulé Scribe annexé au Talmud et précisant que, je cite, « L'on raconte que 5 anciens traduisirent la Torah en grec pour le roi Ptolémée. Et ce jour fut aussi grave pour Israël que le jour du veau d'or, car la Torah ne pouvait être traduite dans son intégrité. » La référence explicite au veau d'or est éloquente et signifie qu'elle accepte, vous voyez, on retrouve Moïse en fait, et signifie qu'avec cette traduction apparaît la possibilité d'aborder la Torah et de l'étudier comme n'importe quelle autre œuvre littéraire. Pour l'auteur du traité, il s'agit bien d'une amputation du livre avec retrait de sa dimension divine, du fait que sa signification se donne au lecteur sous la forme de la seule rationalité, provoquant ainsi une sorte d'effacement de sa dimension transcendantale. Mais l'appréciation portée dans le passage du dit traité illustre surtout la nature et les raisons de l'opposition juive, qui est fondée sur l'idée que seul l'hébreu massorétique, l'hébreu d'origine, est recevable. Alors, selon une telle logique, l'alternative est donc la suivante. Soit le corps linguistique, car la langue est un corps psychique presque aussi objectif que le corps matériel qui accueille Dieu, soit le corps linguistique, disais-je, en l'espèce la langue grecque, est un corps d'imposture, comparable au veau d'or, puisque seul l'hébreu détient cette capacité d'accueil. Soit l'on considère que tout corps linguistique est un corps de kénose, d'abaissement, du verbe incarné. C'est-à-dire que la parole de Dieu est en quelque façon contrainte à s'abaisser, ne pouvant pas être directement elle-même, puisqu'elle serait alors gloire et que personne ici-bas n'a jamais vu ni entendu Dieu dans sa complétude. Il n'y a donc pas de langue qui dise complètement Dieu. Dès lors, les termes de l'alternative se situent entre idole et kénose. Soit prise en compte exclusive de la sainteté et de l'intangibilité du texte hébreu, au sens du terme hébreu kadosh, qui signifie saint, investi d'une sainteté, consacré, sanctifié, soit prise en compte donc de exclusive de la sainteté et de l'intangibilité du texte hébreu, Dieu ne pouvant se délivrer ailleurs, soit prise en compte de l'extension du message qui devient universel à la suite de l'événement eschatologique de la résurrection du Christ et qui se révèle dans la capacité du sens à se transférer dans les langues que Dieu a par ailleurs créées. Ajoutons que sur le plan naturel, toute traduction est déjà une interprétation, donc un abaissement et même un anéantissement par rapport au texte source qui n'existe plus, dès lors qu'il est, comme on dit, lorsqu'on fait des traductions latines, rendu, ou traduction de n'importe quelle langue, rendu par un autre texte. Mais sur le plan surnaturel, c'est bien l'Esprit Saint qui permet de démentir l'adage italien traduttore traditore. Traduire, c'est trahir, puisqu'il transmet, transdonne, transdare, pourrait-on dire, la grâce et au-delà, le sens. Les positions chrétiennes et juives au sujet de la perpétuation matérielle du texte sacré par traduction dans un champ sémantique d'une autre langue, pour antinomie qu'elle soit, ont cependant la caractéristique commune de resituer la révélation au centre de la problématique. Est-ce que Dieu parvient à se révéler? Est-ce que Dieu a prévu qu'il serait présent à toutes les nations et par conséquent que la traduction de la parole, au lieu d'être un obstacle à la communication de la vérité divine, constituerait un renforcement? La position juive reste attachée à la version matérielle, la lettre la plus extérieure, la coquille, le texte voilé, comme dirait Saint Paul. Tout au contraire, s'agissant de la position chrétienne, lorsque le texte est appréhendé comme œuvre de l'Esprit, ce dernier, l'Esprit qui est notre contemporain, agit pour le dévoiler entièrement. Il n'y a donc pas de langue sacramentelle de l'Écriture, mais réception active, supposant l'intervention de l'Esprit Saint comme agent actif. J'en ai donc fini avec ce que l'Église fait et doit faire de l'Écriture. Tout cela m'amène à mon troisième et dernier point, l'étude, l'utilisation et la pratique de l'Écriture sainte dans la vie de l'Église. Lorsque Dei Verbum nous dit, je cite, que l'Église, instruite par le Saint-Esprit, s'efforce d'acquérir une intelligence plus profonde des Saintes Écritures pour offrir continuellement à ses enfants la nourriture de la parole divine. Fin de citation. Il en découle une triple nécessité, celle d'étudier les pères de l'Église tant d'Orient que d'Occident, celle de la recherche exégétique des travaux bibliques en général, celle enfin d'une visée pastorale de ce travail destiné à nourrir le peuple chrétien de la Sainte Écriture. Deux idées fondamentales émergent. Tout d'abord, le caractère impératif des études bibliques, où des progrès considérables ont été accomplis depuis la fameuse encyclique de Pie XII, Divino Affrante Spiritu, de 1943, qui, Pie XII, avait encouragé les études bibliques en assurant aux exégètes la liberté nécessaire. Ensuite, l'importance de garder un but spirituel à ces travaux, puisqu'il s'agit de faire connaître et aimer la parole divine. Il ne fait aucun doute que la critique biblique, grâce au perfectionnement des méthodes, a fourni de précieux résultats permettant en particulier de préciser les genres littéraires et l'arrière-plan historique des écrits bibliques, soit de l'Ancien, soit du Nouveau Testament. La critique biblique a surtout eu pour effet bénéfique de permettre une meilleure intelligence des textes. Et si certaines conclusions ont pu, à un moment ou à un autre, troubler et désorienter des chrétiens peu au courant de la complexité des problèmes bibliques, des crises, et peut-être même la crise moderniste d'ailleurs, se sont en revanche, sous certains aspects, avérés bénéfiques, aboutissant à une connaissance approfondie et renouvelée de la Bible, ainsi qu'à une plus grande confiance en la solidité des enseignements qu'on y trouve. Il n'en demeure pas moins qu'à elle seule, une critique biblique, poussée à l'extrême, intempérante et trop confiante en elle-même, c'est aussi une des leçons qu'il faut tirer de la crise moderniste, qu'une critique poussée à l'extrême, intempérante et trop confiante en elle-même, ne suffit pas pour comprendre le texte au-delà de sa dimension historique, c'est-à-dire à la fois comme présent et futur. Autrement dit, une exégèse qui ne vit, c'est mon point de vue en tout cas, une exégèse qui ne vit plus la Bible dans le corps vivant de l'Église devient archéologique. Voilà pour l'exégèse, mais qu'en est-il de la théologie ? On se souvient qu'au terme du chapitre 4 de la Constitution conciliaire Dei Filius, donc du premier concile de Vatican I, la théologie est définie en deux mots comme, en deux lignes pardon, comme la raison éclairée par la foi qui cherche avec soin, piété et modération et arrive par le don de Dieu à une intelligence très fructueuse des mystères. Or, c'est bien parce que l'Écriture doit toujours être présente dans cette recherche qu'un siècle plus tard, Dei Verbum estime devoir insister particulièrement sur le fait que la parole de Dieu constitue un fondement permanent et une force perpétuelle de rajeunissement, mettant également l'accent sur l'étude qui, comme vous le disiez tout à l'heure à table, cher Père, constitue l'âme de la théologie. En effet, le texte de la Constitution dogmatique sur la révélation de Vatican II rappelle tout d'abord que l'Écriture est le fondement permanent de la théologie, cette dernière reposant sur la parole de Dieu écrite. Si donc la théologie peut parler de Dieu dans son plan de salut, c'est parce que Dieu, le premier, est sorti de son mystère pour parler à l'homme et engager un dialogue d'amitié. Donc au principe de toute réflexion théologique, il y a cette initiative divine, puisque la théologie parle de Dieu en s'appuyant sur ce qu'il a dit lui-même. Fonction de l'Église, dont le travail doit commencer par l'Écriture pour y revenir sans cesse. La théologie est au service de la parole de Dieu et ne peut donc pas devenir ou s'ériger en science autonome. Dans une certaine dogmatique postérieure au Concile de Trente, qui s'était éloignée du texte biblique, du moins je le crois, la place de l'écriture sainte en théologie avait souvent été diminuée, minimisée ou même largement sous-estimée. D'une part en considérant que, avant tout, l'écriture comme un réservoir, un arsenal de textes destinés en tant que de besoin à prouver la crédibilité des tests théologiques ou à venir à leur rescousse, l'apologétique. Et d'autre part, en laissant occuper toute la place à une philosophie aristotélico-thomiste. Sur ce dernier point, un exemple peut être fourni avec la théologie de la Trinité, par exemple, pas la plus simple, pour laquelle un théologien du Concile, fort connu, le père Ranner, regrettait dans un essai écrit justement à l'époque du Concile qu'elle soit souvent traitée de façon très abstraite et philosophique. Ranner regrettait donc, à mon avis à juste titre, que l'on ne parle pas du Dieu personnel sans cesse agissant de la Bible, mais de l'idée de Dieu. Et qu'il soit donc question du Dieu des philosophes et non plus du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, bref, du Dieu de Jésus-Christ. Ce Dieu qui a aimé les hommes, qui s'est entretenu avec eux sur les chemins de Palestine, qui s'est manifesté dans l'histoire, qui est venu en la personne du Fils s'incarner pour leur salut. Car c'est bien à travers cette histoire du salut qui est premièrement et primordialement offerte la connaissance de Dieu. Cela ne veut aucunement dire qu'il faille négliger la philosophie. Il est trop clair que la rigueur conceptuelle qu'elle apporte aux théologiens constitue une richesse dont il ne saurait absolument pas se passer. Mais il convient de reconnaître les limites. L'objet de la foi n'est pas un concept, mais Dieu lui-même révélé dans l'histoire du salut. Le recours constant à l'écriture empêche la théologie de devenir une science abstraite, car si le théologien reste un spéculatif, il prend avant tout appui sur des événements, sur une histoire. Le second aspect sur lequel insiste la constitution dogmatique sur la révélation de Vatican II réside dans le fait que la théologie reçoit de l'écriture sainte vigueur et rajeunissement. Ceci est évidemment issu, lié à la première affirmation, l'écriture fondement de la théologie. Ainsi, une théologie qui se couperait de l'écriture ne pourrait que se dévitaliser. Au contraire, c'est dans le contact permanent avec la Bible que la théologie trouve toute sa force et la plénitude de sa signification. D'autre part, l'étude et la reconnaissance de l'écriture progressent sans cesse avec des méthodes toujours plus perfectionnées. Elles offrent constamment de nouveaux thèmes à la réflexion théologique. Le progrès des études bibliques génère en fait un progrès de la théologie. Le troisième aspect mis en œuvre par des Verbum concerne l'étude de la Sainte Écriture. Pas la Sainte Écriture, l'étude de la Sainte Écriture qui doit être pour la sacrée théologie comme son âme. C'est une manière encore plus expressive, de mon point de vue, de caractériser le rôle de l'écriture par rapport à la théologie grâce à une formule qui, sous réserve qu'elle soit correctement énoncée et comprise, montre que l'écriture sainte fait corpus alors que l'étude menée sur elle fait anima, c'est-à-dire âme, animation de ce corps constitué par l'écriture qui demeure lettre morte si l'exégèse ne l'exprime. J'ai bien dit sous réserve que la formule soit correctement énoncée et bien comprise, car la Constitution n'indique pas, vous l'avez compris, que l'écriture est l'âme de la théologie, mais demande à ce que l'on considère que l'étude de la Sainte Écriture soit donc pour la théologie sacrée comme son âme. Il s'agit donc rien de moins que d'empêcher que l'écriture ne reste lettre morte. Je crois qu'on peut dire que l'écrasement de perspective résultant de la première formule énonçant à tort que l'écriture est l'âme de la théologie, pourtant couramment encore une fois utilisée, relève non seulement d'une contraction inexacte et trop rapide, ne rendant pas correctement compte du texte conciliaire, mais peut même induire, de mon point de vue, une forme de fétichisation de l'écriture sainte venant au détriment de son intelligence. Tout cela ne fait que souligner la nécessité, l'impérieuse nécessité d'un dialogue permanent entre historien et exégète, même si la spécialisation rendue nécessaire et inévitable tant par la complexité que par l'étendue des connaissances ne facilite pas ce dialogue. Les exégètes arguant souvent que les théologiens tiennent insuffisamment compte du sens des textes pour en majorer la portée, et les théologiens les accusant en retour de sous-estimer en quelque sorte l'importance de l'analogie de la foi et donc de minimiser le poids des données scripturaires. Observons néanmoins que l'exégète, comme le théologien, sont en face du même objet formel, rechercher la vérité du Christ qui est au cœur de l'Écriture et dont l'étude doit ensuite devenir l'âme de la théologie. Et puisque l'exégèse consiste à interpréter l'Écriture, l'exégète véritable n'est pas seulement philologue et historien, mais aussi croyant et théologien. En définitive, dire que l'écriture, l'étude de l'écriture est l'âme de la théologie, c'est reconnaître l'unicité de l'écriture dans l'Église, sa catholicité, sa sainteté et son apostolicité. Elle est norme du langage théologique, dit la foi de l'Église, invite à la charité et conduit à l'espérance. À ce sujet, je reviens un court instant sur l'épisode d'Emmaüs. Ce qui me frappe beaucoup dans l'épisode d'Emmaüs rapporté par Saint Luc, c'est que cet épisode montre que c'est en écoutant la parole de Jésus à travers les Écritures et en partageant son repas, écoute et partage, que les disciples sont conduits à un cheminement intérieur, leur permettant de percevoir la présence du ressuscité. Sur la route, Jésus utilise une pédagogie basée sur l'écoute de ce qu'ils peuvent eux-mêmes rapporter des événements vécus la semaine précédente. Je vous rappelle que c'est quand même extraordinaire. Les apôtres disent au Christ, pas que c'est le Christ, mais ils disent au Christ, tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé, tu es bien le seul à ne pas être au courant de ce qui s'est passé ces derniers jours à Jérusalem. Le Christ qui a été crucifié, qui a été flagellé, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est la pédagogie qu'il va utiliser, va étaloger le Christ, basée sur l'écoute de ce qu'ils peuvent eux-mêmes rapporter des événements vécus la semaine précédente, donc ils n'ont rien compris d'ailleurs. Avant de leur apprendre à relire cette expérience à partir des Écritures, révélant ainsi que son mystère pascal éclaire ces événements d'une lumière singulièrement nouvelle et pénétrante. Je crois que cet aspect est véritablement important, parce qu'à trop oublier le fait que le mystère pascal éclaire l'ensemble de façon singulière, bien, vous avez toute une théologie qui, moins maintenant, mais que vous avez connue, cher père, que j'ai connue également, qui était une théologie basée sur l'enseignement de Bultmann. Bultmann, ce théologien allemand, qui expliquait que la résurrection, c'est la résurrection dans le kérigme. Donc, en fait, c'est une image, en quelque sorte. Ça, c'est un peu embêtant, parce que si jamais la résurrection est uniquement une résurrection dans le kérigme, est-ce que ça vaut vraiment le coup de poire, quoi ? Plus généralement, le témoignage des disciples d'Emmaüs montre aux croyants qu'ils peuvent faire l'expérience du ressuscité tant par l'Eucharistie que par la méditation de la parole de Dieu, où ce dernier Dieu prend l'initiative d'une rencontre et d'un dialogue. Calqué sur la pédagogie des pèlerins d'Emmaüs, pareille expérience fondatrice est désignée sous le terme de lectio divina, expression latine faisant référence à une méthode de prière très très ancienne, reprise même du modèle judaïque développé par les pères de l'Église, et qui est avant tout une lecture de l'Écriture ou une lecture sur l'Écriture. Et à y regarder de près, elle est même doublement divine. D'abord parce que son objet est la parole de Dieu, mais aussi parce que celui qui la lit, le lecteur, l'absorbe et se transforme à sa lecture pour ressembler au Christ qui se donne à rencontrer à travers la lection. Accéder ainsi aux Écritures relève d'un don de l'Esprit-Saint que le Christ lui-même a communiqué aux apôtres lors de l'apparition d'Emmaüs. Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est donc ce don qui ouvre à la contemplation du Père en son Fils. Remarquons à cet instant précis du récit de saint Luc. Le Christ se situe dans l'objectivité des Écritures. Mais quatre versets plus loin, l'évangéliste indique qu'il leur devient invisible, le Christ, et qu'il est donc désormais en eux, puisqu'ils se disent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas si brûlant quand il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures. Méthode de lecture spirituelle, de méditation aussi ancienne que l'Église, Lectio Divina ne saurait rentrer en conflit avec l'exégèse, ou se confondre avec elle d'ailleurs, dès lors qu'il s'agit de deux approches totalement différentes des textes bibliques. Certes, l'étude et la prière de la parole de Dieu ont leurs exigences propres, mais elles ont vocation à se compléter, unissant l'intelligence et le cœur pour que la parole nourrisse et éclaire toutes les dimensions de l'homme. Dans ces conditions, l'apport de l'exégèse peut, en particulier, alimenter la méditation de la parole par une plus juste compréhension des expressions qu'elle reçoit dans les différents livres bibliques. Recentrer la foi autour de Jésus-Christ, parole de Dieu faite chair, tel est précisément l'objet de la Lectio Divina qui permet de la recevoir à travers les textes bibliques afin de vivre la rencontre avec celui qui parle. En laissant cheminer intérieurement la parole guidée par l'Esprit-Saint, l'homme fait l'expérience du Fils, lui donnant libre accès au Père. On note par ailleurs l'importance du magistère récent. Pour que la Lectio Divina ne se cantonne pas à une démarche individuelle, mais soit vécue de façon communautaire, dans le cadre d'actions pastorales, faisant véritablement ressortir la primauté de l'Écriture dans la vie quotidienne des chrétiens, afin qu'ils puissent se nourrir de la parole et y conformer leur vie. En définitive, la lecture priante s'inscrit dans la dynamique dialogale que les pages de l'Écriture semblent pour ainsi dire attendre et pour lesquelles elles demeurent disponibles. Ne souhaitant visiblement pas procéder à une hiérarchisation entre lecture spirituelle et lecture dite scientifique de l'Écriture, la constitution des verbum conduit à l'idée que seule l'Écriture est source de foi, sa connaissance plus profonde, qu'elle soit d'ordre spirituel ou théologique, n'étant là que pour conduire plus intensément au Christ et par une dimension, en quelque sorte, centrifuge, de permettre d'aller vers les autres, raison pour lesquelles les traductions des textes sacrés doivent être, dit le Dei Verbum, munis des explications nécessaires et vraiment suffisantes pour qu'ils soient accessibles à tous. Au titre d'objet culturel, concernant des disciplines aussi diverses que l'histoire, l'archéologie, l'anthropologie, l'art, la littérature, la musique, que sais-je encore, la Bible suscite l'intérêt des personnes, de groupes, d'institutions très diverses. Et le dernier alinéa des Verbum préconise d'ailleurs la diffusion de la Bible chez les non-chrétiens. Et là, c'est important aussi, parce qu'il s'agit ni plus ni moins de reconnaître la toute-puissance de la parole, rendant le Christ présent bien au-delà de la sphère d'influence de l'Église hiérarchique et justifiant que l'on fasse à l'usage des non-chrétiens eux-mêmes des éditions de l'Écriture sainte adaptées à leur situation. S'il fallait s'en persuader, pareille affirmation montre que l'Église a renoncé à toute forme de monopole sur la Bible ainsi qu'à toute prétention d'être la seule à pouvoir la lire C'est-à-dire que l'Église ne s'inscrit pas dans une forme de sacralité coranique de l'Écriture. L'Église accepte, en quelque sorte, qu'elle entre dans le processus dynamique de la kénose, y compris par des détournements de la personne du Christ, comme on l'a pu le voir dans certains films, dans certains ouvrages, etc. Mais peut-être peut-on pousser plus loin la réflexion. Dans les évangiles, la confession de foi à Césarée est considérée comme un moment charnière, car ce que Jésus demande aux disciples, c'est pas simplement « pour vous qui suis-je », mais « qui dites-vous que je suis ?» C'est-à-dire « que dites-vous devant ces opinions ? Que dites-vous devant ces points de vue qui s'expriment autour de vous ?» Et la réponse assez touchante d'ailleurs et instantanée de Pierre, « tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », est qualifiée par Jésus même comme parole venue d'un autre. Pierre a dit quelque chose, et ce qu'il a dit était porteur d'autre chose que ce qu'il était capable de dire. Pareille situation est à mes yeux très illustrative des fruits d'une logique d'ouverture interactive. Appliquée à ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, la mise en relation laisse apparaître que ceux qui ne croient pas sont paradoxalement porteurs de quelque chose qu'ils ne connaissent pas et qui résulte des questions même qu'ils soulèvent, montrant à l'occasion que la foi chrétienne ne peut se réduire à une simple transmission de connaissances historiques, mais se constitue aussi bien dans le dialogue avec l'intelligence humaine, ses interrogations, ses réponses, ses impasses, et aussi son impuissance à assumer la dimension dramatique de l'existence sans accepter de se poser la question de Dieu. Bien, voyez-vous, le cardinal Lustiger, lorsqu'il était archevêque de Paris, a eu cette intuition extraordinaire. Et c'est ce qui a donné lieu, probablement, à la mise en place du Collège des Bernardins, qui est un lieu de rencontre avec la culture, où s'y trouvent des gens qui ne rentreraient jamais dans une église. Un jour, j'y ai croisé, je termine sur une anecdote, M. Charras, qui, vous le savez, avait été l'air ministre de François Mitterrand et qui s'enorgueillissait de n'être jamais rentré dans une église. Pour votre gouvernement personnel, lorsque l'ancien président de la République a été enterré, Charras s'est promené autour de son chien, avec son chien autour de l'église. Et un jour, je l'ai rencontré dans le hall des Bernardins. Le collège des Bernardins, il est identifiable. Vous avez une croix au-dessus. Hein. Et puis, vous avez un Christ dans la nef. Il était un petit peu à l'époque masqué par une cafétéria, mais maintenant, les choses sont remises en perspective. Enfin, je dis qu'il était masqué parce que on le voyait bien, mais il y avait un vrai problème de positionnement de la librairie et de la cafétéria, et maintenant ils ont réglé l'affaire, à mon avis, de façon plus intelligente. Même si la perspective est très belle, d'ailleurs, je vous engage à y aller si vous pouvez le faire prochainement, parce que vous avez une très, très belle exposition sur Notre-Dame de Paris qui va commencer. Et Monsieur Charras, à qui je lui ai posé la question, je lui ai dit, écoutez, monsieur le ministre, je suis étonné que vous permettez de vous poser cette question. Je suis étonné de vous voir là à propos des déclarations. On avait commencé par discuter d'autre chose. Et il m'a dit oui, mais c'est vraiment un lieu où il se passe des choses. Et puis la discussion s'est terminée là-dessus. Donc ça, c'est vraiment important. Les gens qui ne croient pas, bah, peut-être qu'ils ils soulèvent des éléments qui permettent d'avancer. Voilà, j'en ai fini. En guise de conclusion, je voudrais souligner que, s'agissant de l'Écriture sainte dans la vie de l'Église, la constitution des verbum et sa postérité spéculative que j'ai vraiment plus particulièrement étudiée ces dernières années témoignent d'une véritable espérance. Espérance, certes, d'un renouveau par la croissance de l'Église du point de vue quantitatif peut-être, mais aussi et surtout de la sainteté de ses membres qui ne peut se réaliser sans l'Écriture. et la méditation de la parole de Dieu. Et c'est toujours cette même espérance qui, 50 ans plus tard, 50 ans donc après Dei Verbum, constitue la ligne mélodique de l'exhortation post-synodale Verbum Domini de Benoît XVI, et plus récemment encore du motu proprio Aperuitilis du pape François, publié le 30 septembre 2019, instituant le troisième dimanche du temps ordinaire comme dimanche de la parole de Dieu, pour permettre par-dessus tout, nous dit-il, de faire revivre à l'Église le geste du ressuscité, qui ouvre également pour nous le trésor de sa parole, afin que nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable. Merci de votre attention.
Merci. Alors, vous avez sûrement des questions. Je vois Marie qui devient. Okay.
Alors, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Si je ne me trompe pas, vous avez dit à la fin de votre deuxième partie qu'il n'y avait pas de langue sacramentelle de l'écriture, avec l'idée de la traduction, tout ça. Et alors, moi, je voulais vous demander si, du coup, vous pouvez dire la même chose de la liturgie, et le fait qu'il n'y aurait pas de langue, enfin, liturgique propre, et enfin, ce qui questionnerait aussi la réalité de l'incarnation de Jésus, dans la mesure où on pourrait aussi penser que si il s'est incarné dans un pays, dans une culture de langue grecque, c'est aussi parce que la langue grecque dispose de ressources linguistiques, sémantiques, etc., qui étaient peut-être plus propres que d'autres à dire le mystère de Dieu. En fait, justement, j'avais un peu une question à vous poser sur parce que j'avais l'impression que dans ce que vous disiez, il y avait une espèce de, un peu d'arbitraire de la langue, où en gros, chaque langue... c'est vrai que c'est pas du tout comme chez les musulmans, où le texte est incréé, etc. Mais on pourrait quand même peut-être penser qu'il y a certaines langues qui ont, dans la liturgie ou pour l'exégèse, des ressources sémantiques et symboliques plus propres à témoigner du mystère divin.
Alors, je crois... vous avez commencé par poser une question sur la liturgie, me semble-t-il, et vous pouvez me la rappeler.
Parce qu'en fait, si vous voulez, on pourrait aussi penser que le latin reste la langue liturgique de l'Église.
D'accord. Alors, je suis pas un spécialiste. Je me suis beaucoup intéressé à la liturgie il y a quelques années aussi. J'y pensais tout à l'heure quand je rentrais chez les Spiritains, parce que les Spiritains ont un supérieur général qui s'appelait Monseigneur Lefebvre. Et en fait, je pensais à lui parce que j'ai vécu cette période des années 72 qui a été assez désagréable, hein, pour tout dire. Vous avez dit d'à côté Bultmann, on ne croit plus à la résurrection. Dans les séminaires, on a. Je peux le dire parce que j'ai vu les cours. Donc, on a quand même. On disait. Que c'est une façon de parler, quoi. C'est, on disait pas il est ressuscité. Si le Christ n'est pas ressuscité, ma foi est vaine. Mais il est quand même ressuscité. On peut dire tout ce qu'on veut. Il est ressuscité. Donc Bultmann, lui, la pensée de Bultmann a arrangé tout le monde parce que ça permettait un peu de relativer les choses. Et puis, probablement aussi de ne pas faire cet effort de réflexion personnelle suffisant. Donc il y avait... Mgr Lefebvre était très attaché au latin, il n'était pas le seul. Et... dans les argumentations qu'il a développées là-dessus, lui, il se focalisait surtout sur la beauté de la liturgie. C'est-à-dire qu'il considérait que la messe dite de Saint Pie V était une messe qui était plus belle, plus vivante, plus parlante, etc. Alors, c'est sûr que sa position avait vraiment varié, parce qu'au moment du concile, il a voté sans problème la constitution sur la liturgie. Il l'a votée. Mais il s'est aperçu par la suite, comme un certain nombre d'autres choses, d'une vraie réalité, c'est que les liturgies étaient un peu saccagées, pour ne rien dire, pour parler clairement. Et en fait, il en a fait un peu une fixation par rapport à ça. Mais il n'a jamais été jusqu'à dire que la langue latine était la langue de toujours, ce qui n'est pas vrai. Et Je crois que, justement, ce que nous montre une étude approfondie des textes, c'est qu'on ne peut pas comprendre la liturgie si jamais on ne fait pas rentrer une dimension pneumatologique des choses. C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure que la parole de Dieu avait vocation se manifester dans toutes les langues. C'est-à-dire qu'il y a l'action de l'Esprit-Saint qui permet de trouver les formules idéales en japonais, en chinois, etc., etc. Vous aurez peut-être un jour un intervenant qui viendra vous parler du nouveau missel romain. C'est assez intéressant dans la liturgie. Vous avez des liturgistes qui ont travaillé là-dessus. Et maintenant, on travaille grâce à Internet, etc., de façon internationale sur ces sujets-là. Et les gens qui ont revu le missel romain se sont aperçus de cette réalité-là, qu'on pouvait faire passer des concepts dans les différentes langues sans trop de difficultés. Mais là où vous avez raison, je pense, et j'espère ne pas avoir dit le contraire, c'est que peut-être dans une langue donnée, vous pouvez avoir un approfondissement de tel ou tel point. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est important. Mais toutes les langues ont vocation à accueillir la parole de Dieu et à la rendre efficace. Je crois que c'est ça qui est vraiment important et plutôt très réconfortant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui.
Y a-t-il une autre question ?
Je vois, bah, Joshua qui lève la main.
Sur un plan théorique, est-ce qu'en mettant plutôt à égalité quand vous faites parole et eucharistie, on ne peut pas les questionner d'une religion du livre, est-ce qu'il n'y a pas ?
Alors, non, le christianisme n'est pas une religion du livre. Le christianisme n'est pas une religion du livre. Pour la bonne raison que la parole est vivante, si vous voulez, la parole est agissante. Lorsque vous lisez le Coran, vous n'avez pas de fantaisie possible. Si vous voulez, vous ne pouvez pas faire un effort de réflexion sur le texte, parce que l'effort de réflexion que vous allez faire, vous pouvez faire un effort de réflexion sur le texte, mais vous allez avoir des gens qui vont vous expliquer que vous ne pouvez pas réfléchir au-delà de tel ou tel point. Tandis que dans la religion catholique, dans la religion chrétienne, pardon, la parole de Dieu, elle est vivante, elle parle. Donc ça veut dire qu'on croit, encore une fois, à l'action de l'Esprit-Saint en lisant le texte. Et puis en plus ça, elle agit, elle transforme la personne. Alors ça, c'est très très compliqué à expliquer, mais c'est tout de même une réalité. C'est tout de même une réalité. Et puis, encore une fois, je trouve que c'est très beau de regarder le déroulement de la célébration eucharistique avec trois grands moments, si vous voulez. La liturgie de la parole, l'Eucharistie, et entre les deux, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, l'homélie qui n'est pas faite pour commenter l'actualité, mais qui est faite pour essayer de montrer comment la parole de Dieu peut agir à travers les textes qu'on vient de lire ou qu'on vient d'entendre. Je crois que c'est ça qui est important. Mais non, de mon point de vue, la religion chrétienne ne peut pas être qualifiée de religion du livre. Je trouve que la réflexion d'Emmanuel Falk là-dessus, alors elle est... Moi, je vous en ai rendu ce que j'en avais compris, si vous voulez, et ce qui est le plus compréhensible pour moi, mais il a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, et je crois qu'il y a des avancées qui sont assez sérieuses, si vous voulez. Je mange par l'acte de mendication. Il y a deux aspects. Je mange à la fois le livre, si je puis dire, et je mange aussi le corps du Christ, l'Eucharistie.
Merci beaucoup. Alors, on va terminer par les complices. Un peu de temps pour prier avec nous.
Bien sûr.